Bonjour à tous. La justice française au secours de la planète. Quatre ONG accusent l'État français d'inaction climatique. Un recours va être déposé devant le tribunal administratif. En parallèle paraît un manifeste pour une justice climatique chez Massot Éditions. Pour en parler, deux des signataires de la pétition L'Affaire du siècle qui avait réuni en quelques jours plus de 2 millions de personnes en décembre dernier, Audrey Pulvar et la juriste Fanny Gianceto. Mais d'abord, Laszlo Némesse, la révélation encore et encore. Après Le Fils de Saul, Grand Prix du jury à Cannes, puis Oscar du meilleur film étranger en 2016. Le réalisateur hongrois nous emporte à nouveau avec Sunset, son deuxième long métrage, en salle mercredi prochain, le 20. Une quête dans le Budapest des années 1910, dans un monde au bord du chaos. À l'Est, quand l'Europe vacille, le cinéma revit. On est ensemble sur France Culture jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
1913, Budapest. L'héroïne de Sunset, Iris Leiter, a perdu ses parents dans l'incendie du célèbre magasin de chapeaux qu'ils avaient fondé. Adulte, elle retourne sur les traces de son passé, apprend l'existence d'un frère qu'elle tente de retrouver. Il aurait basculé du mauvais côté. Au la retour d'elle, le monde s'agite, se fissure, avant de sombrer. Sunset, bande-annonce.
Illika személyhez. Kisasszony, az állás miatt jöttem.
Miért jött ide?
Ez a szüleim üzlete.
Az volt.
Nem ez az egyetlen kalapszalon a városban?
Az egyetlen, ami a nevemet viseli.
Maga egy Leiter.
Tudom, Leiter, fiam.
Azt hiszem, van egy testvérem.
Senki sem tudja, hol lehet most. Menjen el innen. Ezen a héten itt vér fog folyni.
Et bonjour Laszlo Némesse.
Bonjour.
Après Le Fils de Saul, à Auschwitz où l'on suivait Saul, membre d'un Sonderkommando, dans sa folie, tentant de sauver le corps promis au crématorium de celui qu'il pense être son fils pour lui offrir une vraie sépulture, on s'attache cette fois au destin d'une femme au début du siècle, à Budapest, un drame familial, une petite histoire, comme on dit, une trajectoire personnelle. C'est toujours pour vous une porte d'entrée dans la grande, s'attacher à des parcours, des histoires humaines.
Oui, certainement. Je voulais depuis des années faire un film sur comment est né le XXe siècle. Je réfléchis beaucoup au destin de ce siècle et je crois que ces événements incroyables, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ont beaucoup déterminé. La suite et notre présent et notre avenir aussi, comment une civilisation au sommet de sa puissance, dans ce bouillonnement incroyable de culture et d'art et de pensée, d'idées et de technologie, comment au sommet cette civilisation préparait déjà son autodestruction. Et c'est ça qui, je crois, m'a poussé à revenir après la Seconde Guerre mondiale, vers le début du siècle, et voir comment les civilisations disparaissent d'une certaine manière, à travers les yeux d'une personne sur la périphérie qui essaie de comprendre ce qui se passe, et pas d'une manière classique, si vous voulez, pas d'une manière conventionnelle des films de costumes où on donne un mode d'emploi sans cesse aux spectateurs, mais justement passer à travers voir les choses à travers les yeux d'une personne.
Quand vous dites c'est un film sur le début du XXe siècle, c'est pour vous aussi une histoire ou un film historique, ou ça pourrait être un film du présent? C'est aussi notre présent que ça raconte.
L'histoire, je crois, quand elle est visible, comme sur sur le front de la Première Guerre mondiale, et c'est déjà d'une manière trop tard. Ce qui m'intéresse, c'est quand, dans l'inconscient ou sous la surface, comment les forces en nous-mêmes préparent notre propre destruction.
La caméra suit le regard d'Iris, l'héroïne. On voit le monde à travers elle, on le vit à travers sa subjectivité, à travers ses peurs, ses espoirs. Elle a un visage qui parle, un visage sur lequel on peut lire à la fois le présent et aussi tout ce qu'il suscite en elle. Est-ce que c'est pour vous aussi une manière de découvrir l'autre, de passer par le visage pour comprendre l'intériorité de ce personnage?
Oui, je pense, c'est important, les visages sont importants. En France, on avait quand même un grand réalisateur qui s'appelait Robert Bresson et qui dont la tradition a un peu disparu, j'ai l'impression, dans le cinéma français, mais qui où les visages étaient extrêmement importants. Il prenait des amateurs ou des gens qui à chaque fois des nouvelles personnes pour ses films. Et je crois qu'il pensait qu'une personne reflétait déjà sur son visage quelque chose de très important qui dépasse juste l'acteur. C'est quelque chose qu'on peut pas forcément jouer. Il y a des émotions qu'on peut pas forcément juste mettre sur l'image d'une manière comme un comédien le ferait, mais quelque part quelque chose de plus profond pourrait apparaître sur la personne. Et je crois que c'est un peu l'approche que j'ai eue aussi sur ce film.
Et comment vous décririez son visage à elle, celui de l'actrice Yuli Yakab ou celui du personnage Iris? Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir qu'est son visage?
Quelque part, elle est éblouissante et aussi elle est éblouie par la lumière de ce monde, mais elle a aussi une dimension beaucoup plus obscure. Donc on est entre la promesse et quelque chose d'assez sombre, et c'est un peu le voyage du film, le voyage pour le spectateur d'être entre ces forces opposées avec Iris, le personnage principal.
Vous la suivez pendant 2h20, vous filmez son visage pendant 2h20, alors ça c'est le résultat après montage, on imagine que ça a dû être beaucoup plus. Vous vous en êtes lassé au bout d'un moment de son regard, de son visage?
Non.
Vous continuez à vous captiver jusqu'au bout?
Non, je pense que si j'ai bien fait mon travail, elle est c'est un voyage, son visage permet d'établir quelque chose de plus profond avec le spectateur que juste la performance d'acteur, comme on dit en anglais. C'est quelque chose de plus inné, et pour moi le fait de la suivre était cette possibilité d'établir des liens invisibles. Et elle est quelque part, c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé le film pour la dernière fois au laboratoire. Il y avait quelque chose en moi qui était très divisé sur elle, et elle n'est pas du tout, c'est pas du tout l'héroïne classique ou la jeune fille innocente à laquelle on a complètement accès en tant que spectateur. Il y a des ondes d'ombre, et justement, je pensais que si le fils de Saul était quelque part l'ange de la vie, Iris, c'est un peu l'ange de la mort.
Et c'est un voyage qui vous a aussi permis de retourner chez vous en Hongrie. Le film se passe donc à Budapest au début du XXe siècle. Vous avez adopté ou reproduit l'approche, le dispositif que vous aviez déjà choisi pour Le Fils de Saul, celui d'une caméra immersive qui suit un personnage omniprésent. Ici Iris, l'actrice donc Yuli Yakab. C'est de l'ordre pour vous de la performance, cette approche, cette manière de faire, ou de l'expérience?
J'essaye de faire vivre d'une manière viscérale au spectateur quelque chose d'une expérience, et donc la limitation du personnage principal, son manque de compréhension, son immersion dans un labyrinthe qu'elle ne comprend pas forcément, c'est quelque chose qu'on peut faire comprendre, ou quelque chose qu'on peut faire ressentir au spectateur par la limitation. Et je pense que l'être humain est beaucoup plus limité que ce qu'on veut bien nous dire à travers ce flot d'informations de plus en plus important qui nous atteint. Je pense qu'on peut pas avoir cette espèce de carte postale ou de cette vision surplombante du monde telle que les films nous communiquent par les codes et les conventions. Je pense qu'on est beaucoup plus réduit et c'est ce que j'ai essayé de communiquer dans ce film.
Alors vous avez appris le cinéma à la Sloane-Emmaüs pendant vos études, un peu, notamment le scénario, et puis sur le terrain en étant l'assistant d'une comète du cinéma européen, Bélatar, cinéaste hongrois avec lequel vous avez travaillé. On va l'écouter revenir sur ses premières images.
It's hard to believe.
D'une certaine façon, c'est difficile à croire que vous faites un film.
I never wanted to do a film.
J'ai jamais voulu faire un film, en fait.
I just wanted to show to you what I saw.
J'ai seulement voulu vous montrer ce que je voyais, moi.
And of course, later
et bien
I
sûr,
could understand
plus tard, j'ai pu comprendre qu'il ne s'agissait pas que de questions sociales,
it's more ontological
que c'était
problems.
Plus ontologique comme problème.
And now I see
et maintenant,
it's
je vois
cosmical.
Que c'est même des problèmes cosmiques, d'ordre cosmique.
And somehow, there is a point when you have to say, okay,
et à un certain point, il faut se dire, bon, bah, je m'arrête là.
Alors lui, Bélatar, il dit toujours cosmique. Vous dites toujours la Sloane-Emmaüs métaphysique. Hein.
Mais je crois
place.
Que... Oui, je crois
la gravité,
que...
le centre de gravité.
Bah, c'est étrange que le cinéma, aujourd'hui, de plus en plus, est défini par le sujet. Et je crois que c'est un peu un fléau. J'essaye de dire que le cinéma peut être aussi autre chose, pas forcément juste un sujet, mais qu'on essaie d'avoir des films, donc des expériences séparées, qui c'est pas toujours la même chose. C'est pas une... Alors qu'on a une standardisation avec cette révolution numérique, de plus en plus des films, alors qu'on célèbre un divertissement, une diversification des points de vue, je crois au contraire qu'il y a un rétrécissement de ses points de vue. Pour moi, il a raison, Bélatar, d'une certaine manière. Son cinéma est mu par la question cosmique. Et je crois qu'on peut se poser des questions aussi sur notre place dans le monde, sur la vie et la mort. Ce sont des choses qui intéressent quand même l'être humain.
Quel est le premier enseignement, la première chose qu'il vous ait appris ou fait découvrir?
Je crois que c'est le travail, l'importance du travail collectif, l'importance des collaborateurs. Et que au cinéma, le processus, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie, c'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément couper. C'est quelque chose qu'on peut intégrer dans le corps du film.
Il y a autre chose dans ce qu'il dit, cette idée que faire du cinéma sans en avoir l'air ou sans en avoir conscience, c'est possible. Là, il parle de ses premières images tournées quand il avait une vingtaine d'années. Est-ce qu'on est pour vous d'abord cinéaste dans le regard des autres? C'est les autres qui décident de vous faire cinéaste, ou est-ce que vous vivez réalisateur, cinéaste à part entière? Oh, c'est un choix, une volonté.
J'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est un long processus de devenir réalisateur. Je crois que là, quand j'ai compris que j'avais peut-être quelques idées à formuler et pas que juste des sujets ou des histoires à raconter, c'est ça qui m'a renforcé dans ma détermination, mais c'est vrai qu'il y a plein d'obstacles sur le chemin et souvent les gens veulent nous décourager et le système est souvent fait d'obstacles, mais les obstacles sont aussi très utiles pour se renforcer.
La Sloane-Emmaüs, la chapellerie qui est le décor principal de cette histoire, celle de Sunset, la chapellerie des parents d'Iris qui a été brûlée, ils ont péri dans l'incendie, elle y revient quand elle est adulte pour essayer de retrouver la trace des siens, elle veut y travailler mais elle se fait retoquer, refuser par le nouveau propriétaire. Cette chapellerie où les empereurs et les rois viennent se coiffer symbolise le luxe de l'époque, l'élégance, le raffinement de ces années-là. C'est un artisanat qu'on voit dans le travail de ces chapeaux, comme le cinéma d'ailleurs. Vous avez évoqué l'argentique que vous avez choisi pour tourner, la pellicule. Vous trouvez que tout ça, c'est un art qui se perd?
Absolument. L'artisanat au cinéma se perd absolument. On a de moins en moins de connaissances sur ce qu'on fait, parce que les machines nous remplacent. Et on fait plus en plus confiance à la machine. Quelque part, au début du siècle, c'était aussi peut-être la grande illusion. Et les chapeaux de l'époque, avec leur attention aux détails, cachent aussi une illusion que notre position dans l'univers est beaucoup plus stable. Mais en fait, cette fragilité qu'on voit pas. Et je crois qu'au cinéma, justement, on est en train de perdre avec cette pseudo-révolution numérique et le fait qu'on ait perdu la projection de films. C'est comme si on remplaçait parfois des photocopies, les peintures de maîtres dans les musées. Et peut-être que personne n'y verrait rien, mais je pense que c'est quand même une grande différence. Et c'est qu'on manque de respect aux spectateurs en remplaçant par la télévision l'expérience au cinéma. Et le cinéma ne pourra pas se défendre d'ailleurs. Comme ça. Aurait pu se défendre par la pellicule, parce que c'est une autre expérience, profondément.
Vous n'êtes pas prêt à basculer dans le camp Netflix, Laszlo Nemes, demain, s'il n'y a pas promesse de salles obscures ou de salles obscures à la clé pour la diffusion de vos films?
Mais quand on est dans les salles obscures, en projection de pellicule, on est à la moitié du temps dans l'obscurité. C'est un processus presque hypnotique, et je pense que c'est autre chose.
Donc, on peut pas retrouver à la télé ou sur un téléphone portable.
Bah oui, si vous voulez, ça, c'est cette virtualité. C'est la première fois qu'on vit dans un monde complètement virtuel qui n'existe pas. Avec dans 50 ans ces films qui n'existeront pas parce que les données ne sont pas archivables, alors que en pellicule c'est physique. Donc c'est ce détachement du monde. Du monde physique qui m'inquiète beaucoup, oui.
7 ans avant sa mort, c'était en 1957, le cinéaste français d'origine allemande Max Ophüls, auquel vous vous référez parfois, lui ne semblait pas plus inquiet que cela de la concurrence toute naissante de la télévision.
Est-ce que vous pensez que le cinéma, dans un avenir plus ou moins proche, pourra se heurter à la télévision, devra compter à la télévision, et que croyez-vous qu'il arrivera ?
Ah, ça c'est très difficile pour moi à répondre parce que d'abord j'ai toujours peur devant les nouvelles inventions techniques, mais je pouvais m'imaginer que la télévision, qui cherche d'avoir un contact très direct avec l'écouteur, la télévision qui entre dans la maison, sur votre table, dans votre appartement, qui est en face de l'homme qui la regarde et qui n'est pas dans une salle, que la télévision pouvait nous amener vers, ou ramener vers l'art épique, l'art de raconter, l'art comme dans les chansons, les troubadours, tout ce qui est disparu depuis des siècles. Peut-être, c'est peut-être une illusion, mais je pouvais m'imaginer.
Par conséquent, vous ne croyez pas que le cinéma souffrira de la télévision?
Je ne pense pas, non.
Et sera accaparé par elle?
J'espère.
Ah oui. Ah oui. Il vivait d'illusions pour vous, Max Ophüls, en 1950.
Oui, et après, 30 ans après, dans les années 80, le cinéma a commencé à être, notamment en France, financé par la télévision, et en 30 ans, a parachevé ce formatage télévisuel qui continue dans Internet et qui touche la qualité des films, évidemment.
Invité jusqu'à midi et demi, le réalisateur, cinéaste hongrois Laszlo Nemes, à l'occasion de la sortie de son deuxième long métrage, c'est Sunset, et c'est pas ce mercredi, ce sera mercredi prochain, le 20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Sunset, une quête de vérité, une quête du frère aussi. Dans le film, il est dit, ce n'est pas la seule chapellerie de la ville, mais c'est la seule qui porte mon nom. Ça, c'est Iris qui le dit, qui le formule, et c'est pour ça qu'elle veut revenir sur ce lieu-là et pas ailleurs. Quelle énigme cherche-t-elle à résoudre, Iris, votre héroïne?
Je pense... elle cherche à retrouver ce frère qui va lui donner des réponses sur ce qui s'est passé dans cette chapellerie avec ses parents, pourquoi ses parents sont morts, pourquoi quelles sont les forces qui ont été éveillées ou réveillées par le nouveau propriétaire du magasin. Donc au niveau de l'intrigue, c'est des réponses sur des choses factuelles autour de la chapellerie, où il y a des choses qui se passent qui sont pas très jolies.
Vous êtes comme elle, vous cherchez toujours à savoir ce qui se passe derrière le rideau, cette curiosité, ce besoin de vérité, sont aussi les vôtres en général?
Certainement, l'héroïne essaye d'ouvrir les rideaux pour voir clair, et plus elle les ouvre, et plus elle en trouve d'autres. Donc c'est un film certainement sur le cette difficulté de voir clairement.
D'ailleurs, ce qu'elle trouve, souvent elle ne le partage pas. Le spectateur ne connaîtra pas la vérité au fond du fond, au fil de l'histoire. Cette quête de frère dans Sunset fait écho à la quête de fils de Saul dans Le Fils de Saul, votre premier long métrage. Sans trop savoir si l'un comme l'autre sont réels, vous êtes travaillé par cette thématique de la gémellité ou du double ou de l'autre, hein, le frère, le fils, la sœur, le frère. Là, est-ce qu'il n'est pas d'abord, avant tout, ce frère réel ou imaginaire, sa face sombre à elle? Quand le médecin dit à Iris, il projetait sa propre noirceur sur le monde. Est-ce que ce frère n'est pas la face sombre d'Iris, votre personnage?
Certainement. Je crois que quand j'ai lu le double de Dostoevsky, j'étais très touché par cette manière de penser et par les questions soulevées. Et c'est intéressant de voir que, et c'est la question au spectateur aussi, dans quelle mesure, de ce labyrinthe va émerger la question du frère et de la face sombre, si vous voulez, du personnage principal.
Et cette fois, votre héroïne est une femme, la Sloane Bess, une époque où les femmes, au début du XXe, étaient pourtant très corsetées. On le voit à travers l'essaim de jeunes femmes qui travaillent dans la boutique de chapeaux reprise par Oscar Brill. Elles vivent d'ailleurs sous sa protection quand il ne les cède pas pour leur charme, quand il ne les sacrifie pas en leur faisant croire qu'elles ont été choisies par des hommes de la bonne société. Une héroïne, une femme moderne, avant l'heure, c'est de cela dont vous aviez envie pour créer votre propre double à l'écran.
J'étais intéressé par un personnage sur la périphérie, certainement. J'avais une grand-mère qui me racontait des histoires sur sa vie, qu'elle a vécu l'intégralité du siècle, on peut dire, dans sa chair. Elle a été blessée d'une certaine manière très profondément par l'histoire, mais pourtant la question se posait dans quelle mesure elle pouvait influer sur ces événements. Et je crois que c'est assez intégré dans ce film. Après, à une époque où aujourd'hui de plus en plus on aime opposer les hommes et les femmes, je crois que c'est peut-être une vision un peu plus néo-humaniste où l'essence féminine et masculine se mélangent justement chez l'héroïne.
Derrière l'infinie beauté des chapeaux, et il est dit, cela est dit dans le film, se cache toute l'horreur du monde. On est au début dans Sunset, dans cette atmosphère de la Middle Europa. C'est le monde d'hier raconté par Stefan Zweig dans ses souvenirs d'un Européen, celui de l'Europe avant 1914. Dans ce recueil, ce livre, Stefan Zweig écrit « J'ai été témoin de la plus effroyable défaite de la raison ». Il l'écrit en 1941, peu avant de se donner la mort, témoin aussi de l'effondrement d'une civilisation, lui qui parlait des penchants suicidaires de l'Europe. Vous pensez aussi que ce continent qui nous rassemble a une tendance à s'autodétruire, la Sloane Bess?
C'est la question aussi indirectement du film. Un pays comme l'Autriche-Hongrie qui était un empire fait de nationalités différentes, de religions, de cultures, faisait un bouillonnement intense, avait aussi la promesse de quelque chose de différent, et quelque part c'était une idée de l'Europe d'une manière organique qui était présente et qui était détruite. Donc je pense que le milieu de l'Europe, l'Europe centrale, quelque part, a été extrêmement important dans la définition ou l'avenir du siècle. Enfin, en tout cas, au début du siècle, c'était déterminant, l'Europe centrale. Et je crois que c'est pour ça que j'ai retourné. Dans cette région.
Vu d'ici, en France, on a toujours le sentiment que le mauvais vent actuellement souffle de l'Est, et notamment de votre Hongrie, ou plutôt de celle de Viktor Orban, qu'on qualifie de démocratie illibérale, dont on reproduit les discours aussi très réticents, voire xénophobes, à l'arrivée des questions migratoires, des discours très musclés sur ces points-là. À l'approche du scrutin européen, est-ce que vous avez le sentiment, vous, de vivre, d'évoluer dans un pays qui est très polarisé, la Sloane Bess?
J'ai l'impression que quand les leaders émergent dans des pays, souvent ils reflètent l'âme d'un pays. Et c'est étrange que l'Europe centrale, souvent, veuille veuille retourner sur des chemins extrêmement problématiques. Et l'Europe, mais je pense que l'Europe est aussi a aussi des problèmes. C'est étrange d'ailleurs que Hongrie, j'ai pu faire ce film d'une manière libre et le précédent aussi, alors que mon premier film a été n'était pas finançable en Europe même. Donc c'est et que je suis laissé tranquille par le parce que pour une raison, une des raisons, c'est que la télévision, j'ai pas besoin de télévision pour financer les films. Donc c'est assez paradoxal en fait.
Et pour ce film-là, vous avez eu un soutien de la France, par exemple?
Oui, c'est en coproduction avec la France, c'est une coproduction minoritaire avec la France et aussi Orimage.
C'est les coproductions, c'est les financements qui font le cinéma européen pour vous aujourd'hui, la Sonémesse, ou ce sont les sujets qu'on aborde?
Ben moi, je crois que j'ai fait un film assez sur l'Europe, en fait. Mais d'une manière organique, si vous voulez. Vraiment un questionnement sur notre âme. Et pas d'une manière, si vous voulez, externe ou politique ou sociale. Et donc, je pense que c'est pas qu'il y a encore beaucoup d'interrogations à avoir et que le cinéma peut le faire et pas forcément d'une manière conventionnelle.
Et d'ailleurs, quel Européen êtes-vous, puisque vous parlez d'un film européen réalisé presque de manière organique? Vous aviez 27 ans, vous, hein, en 2004, quand la Hongrie a rejoint l'Union Européenne. Vous faites partie aujourd'hui de cette génération des cadras européens. Comment vous vivez comme Européen? Ça veut dire quoi pour vous?
Je suis nostalgique d'une période passée et où l'Europe était organique, comme d'ailleurs dans l'Autriche-Hongrie, et qu'on n'avait pas besoin de. On était là entre populations mélangées et que c'était qu'il y avait une promesse. Je suis peut-être un peu. Je vois les choses un peu sombrement, mais c'est aussi parce que je suis un peu inquiet par la question de la civilisation et comment les choses se passent.
Votre film La Sonémesse Sunset sortira en salle mercredi 20 mars en France. Vous êtes aussi dans la sélection des 5 films pour le prix France Culture Cinéma des étudiants. D'ailleurs, je renvoie tous les jeunes vers le site franceculture.fr pour se renseigner comment participer. Vous pouvez tous y participer. Je vous remercie mille fois d'être passé autour de cette grande table, La Sonémesse. Merci.
Merci.
Merci à vous.